en direct de ton podcast préféré, Crime et Boxe. C'est une grande première. Je travaille sur ce projet-là depuis environ 1993. Faut comprendre que là, je me demandais quelle formule j'allais utiliser. Je me demandais aussi s'il y avait de la place dans les médias pour du true crime québécois seulement sur la boxe. Puis là, je me suis dit, je vais attendre. On était en 93, j'avais juste 11 ans. J'étais jeune un peu, puis les podcasts existaient. C'est surtout que ça n'existait pas encore. Là, dans les dernières années, je suis devenu un podcasteur à succès. J'ai le fameux podcast « Laurence écoute parler ». Allez voir ça. J'ai infiltré le monde de la boxe. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la boxe, depuis toujours. Puis les histoires autour de la boxe. Je trouve qu'un combat de boxe, c'est intéressant. Mais c'est surtout intéressant si tu peux me vendre une histoire autour. C'est un peu ce que j'appelle la méthode Régis Lévesque. Régis te vendait un combat, mais il te vendait surtout une rivalité, une histoire qui faisait que tu voulais te déplacer puis aller assister au combat. Pourquoi c'est les combats locaux qui ont toujours vendu? Parce qu'il y a une histoire autour. Mais il y a aussi une histoire autour des boxeurs. Puis il y a souvent, malheureusement, une tonne de destins tragiques. Et dans les dernières semaines, moi je travaille au fédéral, comme ma grand-mère dirait, au fédéral, t'es bien sur un moyen temps. Et je dois passer le temps. Pour passer le temps, j'ai commencé à consommer des tonnes de podcasts québécois. Et j'ai toujours aimé, parce que moi, là, j'ai jamais volé un paquet de gomme au dépanneur, mais je suis fasciné, comme plusieurs Québécois, par les criminels, ceux qui ont été les plus dangereux, les meilleurs, ceux qui font le plus peur, ceux qui ont eu la vie la plus tourmentée. Sans dire qu'on valorise pas ça, mais ça fascine. Et il y a eu des carrières gâchées, des potentiels gaspillés à cause du crime. On pourrait s'en parler jusqu'à demain. On va s'en parler environ 30 minutes, mais j'ai pas réussi aussi à calculer le podcast va durer combien de temps. On est vraiment dans l'improvisation aujourd'hui, mais ça fait 5 ans que j'improvise en boxe, ça fait 5 ans que je suis le meilleur au Québec. Fait que je me dis, changeons pas la recette gagnante. Donc, je me présente, Laurent Poulain. Je suis podcasteur vedette du podcast Laurence écoute parler et je suis le gestionnaire de la page Boxing Town Québec sur Facebook, boxingtownquebec.ca, un site justement qui a été attaqué par des pirates russes pour essayer de vendre du trembolone qui est un stéroïde de synthèse. Donc, on est vraiment dans le crime, là. J'ai été moi-même attaqué par des pirates russes sur mon site internet. Donc, je sais de quoi je parle dans le crime. Ici, je m'étais mis des notes. Ma relation avec les podcasts de True Crime. J'écoute une tonne de podcasts de True Crime. Il y a Radio-Canada avec Isabelle Richer qui en a produit une tonne de qualité. Des podcasts d'enquête. Le Casanova de Montréal. Aussi, ils ont repris avec un journaliste qui s'appelle Bert Thomet. Une tonne de vieilles enquêtes ou de vieux dossiers qui avaient été fermés, exemple en 1962. Et là, ils rouvrent ça bord en bord. Ils sont même arrivés à sortir des corps, des fosses communes, puis à vraiment aller loin. Puis ça m'a bien impressionné. Fait que sur Radio-Canada, il y a une tonne de true crime, là. C'est bien fait. Ils sont à peu près 80 employés pour un podcast de 45 minutes. Moi, j'aimerais mentionner que j'ai aussi une grosse équipe. J'ai Laurent Poulain qui s'occupe de la perche. J'ai Laurent Poulain qui s'occupe de la production. J'ai Laurent Poulain à la réalisation. J'ai Laurent Poulain à la narration, au bruit sonore. Ben, bref, je fais tout, là. On fait avec les moyens du bord. Mes podcasts préférés, bon, il y a ceux aussi sur Cube Radio avec Félix Séguin qui s'amuse à passer près de la mort en Colombie ou à faire des podcasts sur récemment, j'ai écouté un podcast Benoît Roberge, un policier corrompu. Donc ça, c'est intéressant aussi. Sinon, il y a des podcasts québécois que je qualifierais d'amis. Ben, dans ma tête, parce que je les écoute, c'est devenu mes amis, mais eux ne me connaissent pas. Il y a Un peu de crime dans ton café, qui est un solide. Mes deux podcasts québécois préférés, c'est des solides jeux de mots. Un peu de crime dans ton café, qui est comme un peu de crème, un peu de crime. Et Crime de Bin, qui est mon autre podcast préféré. Là, j'ai remarqué que dans les podcasts, ils sont toujours deux, OK? Puis il y en a un, mettons, qui dit il a amputé la jambe à froid avec une hache. Puis là, l'autre fait « Oh mon Dieu! » Mais là, moi, dans mon podcast, parce que c'est plus simple, quand t'es deux, là, il faut que t'enregistres, il faut que t'aies un programme. Ben, moi, je suis tout seul avec moi-même puis mon téléphone. Fait que c'est comme moins compliqué. Fait que c'est sûr, mettons, je veux dire, il lui a arraché la jambe, ben, il n'y aura pas de réaction. Fait que ce que je vous propose, c'est faites vos réactions vous-même à la maison. Comprenez-vous, là, la simplicité de l'affaire, vous faites partie du podcast. Vous avez juste à vous-même faire les oh, puis tout le monde va être heureux. Bon, là, pour lancer mon premier podcast, là, présentement, j'ai monté 67 émissions dans ma tête. Okay? Il y a 67 criminels notoires. J'avais des histoires préférées comme... J'ai remarqué que souvent, on allait laisser des boxeurs qui ont des gros problèmes de maladie mentale, on allait les soigner, entre guillemets, puis on essayait d'abuser d'eux, ben, j'ai envie de dire, ouais, abuser d'eux jusqu'à la fin pour avoir nos combats. Fait, admettons, je vais donner mon histoire, comme ici, Edwin Valero, qui est mon premier sujet, lui, il allait vraiment pas bien, mais Top Rank essayait de le monter pour l'opposer à Manny Pacquiao à 135 livres, puis c'était le combat que tout le monde attendait. Pacquiao faisait des victimes, Valero faisait des victimes aussi. On était prêts à les placer un contre l'autre. Puis c'est pour ça qu'on, disons, repoussait l'idée de soigner Edwin Valero entre les deux oreilles. Dans mes dossiers préférés, il va y avoir, bien sûr, James le marteau. Lui, je vous raconterai. On est dans une soirée bénéfice pour le 11 septembre. Il se fait battre au juge. Il part, il assomme son adversaire. Il le laisse quasiment dans le coma. Puis dans les jours suivants, les années qui suivent, il va tuer Sam Kellerman à coup de marteau, qui est le frère de Max Kellerman. On verra tout ça dans un prochain épisode. Il y a aussi Ike Ibeabuchi, qui est un de mes dossiers préférés, parce que lui, c'est un Nigérien. Il se croyait le président du Nigeria, le roi du Nigeria. Les fils s'étaient complètement touchés. Puis on lui déroulait le tapis rouge, puis on l'appelait Monsieur le Président parce qu'on voulait l'opposer à Lennox Lewis, puis collecter la grosse argent parce que lui, il avait battu David Tua dans un combat où il avait lancé quasiment 2000 coups de poing les deux poids lourds. Fait que pour pas perdre le combat contre Lewis, lui aussi, on repoussait ses problèmes de santé mentale. Finalement, il finit 30 ans d'une prison. Fait que des sujets, là, des criminels en boxe, là, inquiétez-vous pas, il en manque pas pour faire plusieurs saisons. Donc, voilà. L'introduction est un peu longue, mais c'est parce qu'il fallait se présenter. Et notre premier dossier, Edwin, la Dynamita Valero, après la pause.
Je suis équipé, j'ai des masques, le fameux masque en 95. Et il faut faire attention.
Parce que ça fait pas leur affaire, parce qu'on parle, on montre les photos, sont accusés aux criminels. Oui, ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire.
Ouais. Passons à notre sujet principal, Edwin Valero. Surnommé de Inca, de Dynamite, El Terminator ou aussi le Liquidateur. Dommage que... Il a pris un peu trop son nom au sérieux. J'ai 44 feuilles ici de notes de cours. Donc, on va y aller cas par cas. Edwin Valero est né le 3 décembre 81 et il va décéder le 19 avril 2010. Donc, si je sais calculer, ça fait 28 ans. Il est né à Bolero Alto au Venezuela. Bon, là, Valero, on va y aller comme ça commence, là, avec un résumé. C'est un boxeur valant vénézuélien qui a compétitionné de 2002 à 2010, champion du monde dans deux catégories de poids. Il a possédé le titre WBA des featherweight, donc 130 livres de 2006 à 2008, et le titre WBC des 140 livres de 2009 à 2010. C'est un gaucher qu'on reconnaissait pour sa... Écoute, lui, il ne faisait pas dans la dentelle. Il était très agressif et sa force de frappe n'avait pas de saint bon sens. C'est le seul champion WBC à avoir gagné tous ses combats par KO. Mais c'est sûr que sa mort a aidé, là. Puis, c'est le seul. Mais si ma mémoire est bonne, à moins que Beterbiev l'ait le fait aussi présentement, là, faudrait que je retourne voir mes notes. En 2010, il va se suicider dans sa cellule en prison. Donc, parlons de son adolescence. Il est né, bon, ici j'ai 13 pages de feuilles, il est né le 3 décembre 1981. Il va quitter l'école en très bas âge pour aller vendre des fruits à la station d'autobus. Bon, il y a 9 ans, quand il quitte l'école, il accompagne sa mère pour vendre des fruits. À 12 ans, pleurez pas, là, c'est un itinérant, et il va découvrir la boxe. À cette époque-là, il se tient avec des membres de gang de rue, puis il fait du bike. Ça, c'est la moto aura une grande importance dans la carrière que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est l'ancien boxeur Oscar Ortega qui va le découvrir et il prend sous son aile. Il est impressionné parce que Valero, c'est l'ardeur, l'intensité à l'entraînement. Il n'arrête jamais. Il s'entraîne tout le temps. C'est le gars le plus sérieux. Et il y a une flaque de sueur à terre. Et il ne se cache jamais. Fait que là, lui, il se met à triper sérieusement. Là. Il trippe sur Valero. Et chez les amateurs, il va avoir une fiche de 59 victoires, 6 défaites, 57 victoires par KO. Il va rater les Jeux olympiques de Sydney en Australie pour faire un passage chez les professionnels. Bon. Là, en gros, les événements marquants de la carrière de Valero. Après ça, on recommencera au début. Là. Vous allez voir, mais je vais m'habituer de semaine en semaine. Le 25 février 2006, c'est là que Valero va se faire connaître parce qu'il a établi un nouveau record du monde de victoires au premier round. Il va en battre 18 de suite pour battre le record d'un certain Arthur Suskind. Le record de Valero va être battu depuis par Tyrone Bronson qui, lui, l'avait fait en affrontant des boxeurs tout croche. Donc, on a de la misère à dire que Bronson est meilleur que Valero parce qu'il a fait exprès pour battre le record en affrontant 19 pingouins consécutifs. Parce que Valero a une force de frappe qui n'a aucun sens avec sa main gauche et son ratio parfait de knockout, il devient une genre de... Le monde de la boxe va lui vouer un culte. C'est comme le secret le mieux gardé de l'histoire. Le monde se met à triper. Il y a le Ring Magazine qui existe encore en version papier à l'époque. Puis Doug Fisher va triper. Il va se mettre à multiplier les articles sur Valero puis à le nommer à tous les sauces. C'est le gars qui écrit aussi sur Max Boxing, qui existe encore aujourd'hui. Et là, il se met même à se déplacer pour voir les combats de Valero. Il va aller documenter ses sparring. Il va aller faire des vidéos de ses entraînements. C'est lui qui est vraiment qui va mettre Valero à l'avant-scène. Il va faire aussi des entrevues avec un autre journaliste qui s'appelle Peter Palmière. Donc... Eux, ils vont l'aider à le faire connaître. En parallèle à ça, le 5 avril 2006, Valero va se battre pour la première fois en championnat du monde contre Vicente Mosquera. Bon, c'est vraiment son plus gros combat en carrière. Okay? Dès le premier round, Valero va swinguer Mosquera tapis sur une gauche qui n'a pas de saint bon sens. Mosquera, de l'expérience, se relève, laisse un peu la tempête passer et boum! Il va aussi envoyer Valero tapis. Mais Valero, il fait comme il a toujours fait dans la vie. Il n'en a rien à sacrer d'être allé au tapis. Il se relève puis il swing à deux mains. Mais là, tout le monde dans la foule dit « ça n'a pas de bon sens ». Il n'aura jamais l'endurance pour continuer ça. Valero n'a jamais arrêté jusqu'au dixième, puis il va arrêter Mosquera au dixième round. Ça n'a pas de saint bon sens. Valero, il a 24 ans. Il est champion du monde, puis il va défendre son titre 4 fois avant de monter de catégorie de poids et se déplacer au Japon pour le faire contre Takehiro Shimeda. Mais là, vous allez voir, c'est que là, je vous raconte sa carrière pro. Puis en parallèle, je vais vous raconter pourquoi on est au Japon. Vous allez voir, c'est vraiment un nouveau genre. Là. C'est comme un livre dont vous êtes le héros, mais en podcast. Le 3 septembre 2008, il va abandonner son titre de WBA pour aller affronter Antonio le Pitbull Pitalua, qui est champion du... Le titre est vacant à la WBC. Non. Le 3 septembre 2008, il abandonne son titre. Le 4 avril 2009, il se bat pour le titre vacant de la division au-dessus contre Antonio Pitalua. Pitalua, c'est la première fois que Valero retourne depuis son grand accident aux États-Unis. On va en parler dans le prochain segment. Pitalua, lui, il a 14 victoires de suite par KO. Il est 46-3. Valero, lui, il a 24 KO de suite. On le sait que ça va revoler en joie le vert. Là. Au début du deuxième round, Valero knock Pitalua. Pitalua, il se relève, il essaye de gérer tout ça, il retourne 2 fois au tapis, l'arbitre en a assez, c'est fini. Après 2 minutes 11, Valero est double champion du monde. Valero va faire son combat suivant chez eux au Venezuela contre un certain Hector Velasquez. Il va battre facilement Velasquez et là, on lui amène le plus grand test de sa vie, Antonio Di Marco. Mais le salaud à Di Marco, au deuxième round, il passe un coude en pleine tronche. Et mon Valero saigne comme un cochon de l'œil droit, même si c'était intentionnel. On convainc l'arbitre de continuer ça sous prétexte que ça fait juste saigner, mais c'est pas dangereux. Il va tellement frapper de Marco que un moment donné, son coin arrête le combat. Ce sera malheureusement le dernier combat de Valero parce qu'il va mourir plus tard. Bon. Là, j'ai mis 40 pages de notes, puis tout, c'est pas évident. Valero, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est pas un gars qui est un surdoué, OK? Ben, pas surdoué, il est bien intelligent, sauf qu'il prend trop d'alcool, OK? Le 5 février 2001, ça, c'est comme parallèlement à tout ce qui se passe, là, tu sais, ce qui a amené le Japon, puis tout ça. Il est en moto podcast. Okay? Il se promène podcast. La vie est belle. Puis il se fait rentrer dedans par un char. Fait que son crâne éclate. Tu sais, c'est une bonne affaire, ça. Ton crâne qui éclate, toujours un paquet de troubles. Puis il y a une chirurgie pour enlever tous les caillots qu'il y a dans le sang. On peut penser qu'avec les coups qu'il a déjà reçus sur la tête, c'est la fin de sa carrière pro. Okay? Ça va pas bien. Mais il convainc le docteur de le clairer de tout ça. Mais il n'y a personne aux États-Unis qui veut le laisser boxer. Mais l'affaire, c'est qu'entre-temps, Valero, lui, il pogne le jackpot avec Oscar De La Hoya. De La Hoya signe le jackpot, puis il dit « Faites-en pas, je vais être capable de gérer tout ça, puis on va passer les scans au cerveau, puis la vie va être belle. » Mais là, tenez-vous bien, là, ils ne veulent plus faire boxer Valero. Il n'est pas capable de se trouver de combat nulle part aux États-Unis. Fait que Valero, il se met à capoter, puis il comprend pas pourquoi Oscar De La Hoya, qui est un homme puissant, n'est pas capable de régler ses dossiers. Il se met à être frustré contre De La Hoya, parce qu'il pensait que De La Hoya allait en faire un homme très riche, puis finalement, même pas assez bon pour le clairer pour ses problèmes de cerveau pour boxer aux États-Unis. Fait qu'on est en 2004, il a l'impression que sa carrière est finie parce qu'on ne laisse pas boxer, parce que son cerveau est brisé. Il trouve pas de solution puis il est en colère. Il va se faire approcher par Tekken Promotion. Tekken Promotion, ils ont de l'argent à pu finir, ils sont au Japon, puis là-bas, là, je vais traduire ce que j'ai entendu dans les entrevues, il s'en calisse de le faire boxer, même s'il y a des problèmes à son cerveau. Fait qu'Edwin Valero va s'exporter au Japon, où il va devenir champion, puis il va défendre son titre 4 fois, au Panama, au Mexique, en France et au Japon. OK? Donc, il est bien heureux, il est en train de devenir une superstar. Là, Valero le surdoué, il est chez eux le 27 septembre 2009. Ça, c'est pas chic, OK? Il va sacrer une volée à sa mère puis à sa blonde, OK? Lui, il va dire que c'est pas vrai, que sa famille essaye de nuire à sa réputation. Et sa mère va finir par sortir dans les médias pour dire qu'il n'est rien arrivé. Fait que là, on est en 2009. Tout le monde le sauve un peu de ce qu'il a fait. T'sais. Mais entre-temps, il est de plus en plus jaloux. Il est agressif, mais il devient le meilleur ami du président du Venezuela, Hugo Chavez. Fait qu'il se sent un peu intouchable. T'sais. Il est ami avec Hugo Chavez. Puis Bob Arum fait tout pour l'amener tranquillement, pas vite, vers un combat contre Manny Pacquiao. Puis en sparring, il se promène avec Eric Morales et il dit qu'il l'a brassé. Mickey Garcia dit que c'est le meilleur qu'il a jamais vu. Puis tout le monde est en train de mousser un éventuel combat entre Pacquiao puis Valero. Fait que lui, il est assez bien dans sa tête. Là. Il se dit, mais tout le monde me protège. Puis je m'en vais tranquillement, pas vite, devenir milliardaire contre Valero. Contre Pacquiao, la vie est belle. Mais en 2010, il va sacrer une autre volée à sa femme. Mais là, elle est à l'hôpital, OK? Elle a des côtes cassées, puis elle a le foie perforé, OK? Encore une fois, il va dire, j'ai rien fait, elle est tombée dans les escaliers. Mais les enquêteurs ne le croient pas. Puis après plusieurs jours à l'hôpital, sa femme va dire qu'elle est tombée des escaliers. Mais le problème, c'est qu'elle y retourne 2 autres fois. Puis après 3 fois que je suis tombé des escaliers, il n'y a plus personne qui accroît, puis on se doute que c'est Valero qui abat. Tu sais. Puis aller voir les vidéos de ses combats, souvent, ils vont faire des close-ups sur sa femme dans la foule, puis c'est saisissant. Elle n'a pas l'air bien. Elle a l'air troublée. Elle a l'air d'avoir peur. Puis c'est vraiment spécial à regarder avec ce qu'on sait aujourd'hui. Valero va pas bien, OK? Puis à cause qu'il a une personnalité d'homme assez vicieux, puis il est vicieux, puis il est violent quand il se pointe à l'hôpital pendant que sa femme a des traitements, fait qu'il va se faire envoyer 6 mois en réhabilitation, OK? Ils vont l'enfermer, ça, on est en 2010, si ma mémoire est bonne. Fait que là, mon Valero, en mars 2010, il est 27-0. Il attend son combat contre Pacquiao. Il est double champion du monde. Mais il sac des volets à sa femme, puis il est enfermé en psychiatrie. Mais ce que je vois dans tous les podcasts que j'ai écrits, je n'ai écrit plus de 67 sur la violence avec les crimes de boxe, il y a toujours un promoteur qui croit au boxeur, qui veut lui donner toutes les chances de se rendre au sommet, puis qui va tolérer à peu près n'importe quoi, puis qui va même protéger le gars juridiquement pour avoir son gros combat. Ça revient souvent, ça. Ici, on veut mettre Valero contre Pacquiao. On tient tellement à ça qu'on se sert de Hugo Chavez, on se sert de Bob Arum, puis on est prêt à peu près à tout pour pas que on perde le combat. Tu sais. Puis, c'est ce qu'on fait beaucoup avec Valero. Là, on est en train d'organiser un combat pour Valero en demi-finale de Pacquiao contre Miguel Cotto. Puis l'idée, c'est d'opposer Valero à Humberto Soto. Fait que tout est réglé. Okay? Il s'en va affronter Umberto Soto. Mais il y a un problème de visa. Puis entre-temps, pendant qu'on essaye de régler son problème de visa, en auto, il rentre de plein fouet d'un arbre, puis on découvre qu'il y a des armes dans son char. Fait que là, il se fait encore arrêter, puis là, il sort de prison. Première affaire qu'il fait, il ressac une volée à sa famille encore. Ça, c'est la deuxième fois qu'il va battre sa famille. Fait qu'ils ont même envoyé... Bob Arum l'a même envoyé à Cuba pour ça. C'est ça, il s'en allait à Cuba pour une réhabilitation. Toujours en attendant son combat contre Soto, on voulait le réhabiliter vite. Puis pendant qu'il s'en allait à l'aéroport pour aller à Cuba pour se faire réhabiliter, c'est là qu'il rentre de plein fouet dans un arbre. Okay. Bon, là, il arrive une histoire un petit peu triste. Okay. À 24 ans, là, il n'a plus le droit d'approcher sa femme. Il emprunte un auto à quelqu'un. Il se rend à l'hôtel de la ville de Valencia Caraburo et il trouve sa femme, parce que je pense qu'il savait où était, là. Fait qu'il rentre dans la chambre d'hôtel et il va tuer sa femme de 3 coups de couteau. On est le 18 avril 2010. Fait que le 18 avril 2010, il tue sa femme de 3 coups de couteau. Donc, on va l'amener en prison et on va faire une grave erreur. C'est que Valero, le lendemain matin, après s'être caché toute la nuit, il se présente en prison et là, il est nu-pied. Il a juste un t-shirt puis des track pants, comme on dit dans le jargon. Fait qu'on va lui retirer son t-shirt, on va lui donner comme je sais pas quoi, ça, il est en bédaine, puis il s'en va dans sa cellule et il va enlever ses track pants, il va faire un nœud, puis il va se pendre, puis il va mourir en prison à 1h30 du matin, le 19 avril. C'est la fin de Valero. Lui, allez voir les images, là, il est beaucoup reconnu pour avoir le drapeau du Venezuela sur son torse, en plus de sa force de frappe qui était légendaire. Pour plusieurs, c'est le plus grand talent gâché par la boxe. T'sais, on va beaucoup entendre ça souvent. T'sais. Là, ben, on n'a plus de Valero. Il va avoir un film sur sa vie qui s'appelle El Inca, qui va sortir en 2016. Et c'est l'acteur Alexander Leterni qui va jouer son rôle. Sinon, moi, j'ai beaucoup trouvé des affaires. J'ai beaucoup fouillé sur YouTube. J'ai fouillé sur Yahoo. Sur ESPN, il y avait tout suivi ça. J'ai écouté ses combats sur YouTube. T'sais, c'est comme ça que j'ai réussi à vous construire cette grande émission. C'est certain que ça va clasher un peu avec les autres histoires où les procès sont plus longs, puis il y a des histoires ou des réhabilitations. Ici, il se tue quelques heures après avoir tué sa femme. Donc, je peux pas vous jouer le juge puis le procureur de la couronne. Mais c'est la première histoire que je voulais vous raconter. Edwin Valero. La même année, c'est triste, là. Aujourd'hui, ses enfants sont dans un orphelinat puis tout, là. Mais là, ils sont rendus à l'âge adulte, mais je pense qu'il y a 4 enfants qui ont survécu à cette histoire-là. C'est d'une grande tristesse. Ils ont perdu leurs 2 parents en 8 heures. C'est la même année, il y a Alexis Arguello et Arturo Gatti qui sont morts dans des situations un peu tragiques. Et ça va être une année difficile pour la boxe où on va beaucoup commencer à demander s'il faut rendre le sport interdit à cause des 3 morts, t'sais. Donc, c'était ta première épisode de ta nouvelle émission préférée, Crime et Boxe. Et on reviendra la semaine prochaine. J'hésite, là, probablement que je vais vous conter l'histoire de Ike Ibeabuchi, qui est une histoire où on aura beaucoup plus de choses à raconter, de procès à compter, de même où ce qui est rendu aujourd'hui. Donc, c'était ton émission préférée, Crime et Boxe, sur Edwin Valero.